un atelier débat meublé par 5 panels, suivi d'échanges et visites terrain avec des médias dont Radio de la Paix, à Grand Laou, Laoukmanda et Grand Bérébi. À cela s'est ajouté la participation et la contribution des ministères clés en charge de l'environnement, des eaux et forêts, des chercheurs, des ONG, des entreprises, puis des communautés locales impactées par le changement climatique. Une série d'activités ayant pour but d'offrir à mi-parcours une opportunité, un tremplin afin de renforcer les intérêts des bénéficiaires du projet Terra Africa pour les questions environnementales. Retour sur ces différentes étapes dans cet entretien avec Marc-Antelme Kouadio, consultant en biodiversité et environnement.
Radio de la Paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.
Monsieur Marc-Antelme Kouadio, bonjour.
Bonjour, madame.
CFI Média et IDF ont organisé une série d'activités du 10 au 13 juillet 2024 à l'intention des journalistes, des communicateurs et des hommes de médias. Dans quel contexte se situe cette série d'activités?
Il était question d'allier les questions théoriques aux questions pratiques. Donc c'était un atelier débat sur les enjeux du changement climatique et la communication avec les médias. Donc cet atelier-là, qui était une sorte d'organisation de panel avec des thématiques bien spécifiques, avait pour objectif d'offrir un cadre propice aux collaborations multi-acteurs, précisément au niveau national, entre les médias, la société civile, la communauté scientifique, le secteur privé et les pouvoirs publics, dans l'objectif de renforcer l'intérêt des journalistes pour les questions environnementales et la production de contenu média de qualité sur les enjeux locaux, régionaux du réchauffement climatique.
Quels ont été, entre autres, les thèmes abordés?
Parmi les différents échanges qui ont eu lieu lors des différents panels, nous avons eu 3 thématiques. La déforestation, la conservation de la biodiversité, donc qui constitue le premier thème. Le deuxième thème sont les enjeux du financement carbone en Côte d'Ivoire pour la participation à la reconstruction du couvert forestier. Et ensuite, le changement climatique et conservation de la biodiversité marine, qui est un élément très innovant au niveau des engagements des parties prenantes aux locaux. Et la troisième thématique, c'est l'échange et les visites de terrain avec les porteurs d'initiatives et les communautés locales.
Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir du panel sur la déforestation?
Et sur la déforestation, il y a pas mal de choses à retenir. Disons que les défis environnementaux sont légion, mais ce qu'on peut retenir en Côte d'Ivoire, c'est que le taux de déforestation est vraiment élevé, qui est dû en partie à l'agriculture et aussi d'autres aspects. Mais prenons ce côté production agricole qui a contribué considérablement à la déforestation. Donc toutes ces initiatives portées par les organisations non gouvernementales, les organes étatiques, a conduit des projets de reforestation, d'afforestation et de restauration, qu'on qualifie de ARR, qui permet quand même de mener des actions concrètes sur le terrain. Donc il s'agit de reboisement, de développement de pépinières, inclusion ou implication des communautés locales dans la restauration des couverts forestiers. Et déjà, ce qu'on peut retenir d'emblée, c'est que les acteurs sont engagés sur le terrain, y compris les communautés locales. Et les acteurs de médias portent un intérêt à pouvoir faire passer le message pour susciter plus d'actions au niveau local et au niveau national.
À propos toujours de la déforestation, il a été aussi question de crédit carbone. Et dans ce sens, il y a eu le partage d'un expert.
Le crédit carbone, c'est une initiative qui permet quand même de rétribuer les efforts de ceux qui sont engagés dans la conservation des écosystèmes, plus précisément les écosystèmes forêts. Donc il s'agit d'une compensation pour les efforts consentis pour contribuer à la conservation. Donc une communauté qui s'engage à pouvoir conserver une partie de sa forêt, normalement devait être rétribué pour les efforts qui sont consentis. Donc ces systèmes-là sont complexes, mais quand même qui permettent d'attaquer des sujets bien spécifiques que sont les financements climatiques. Donc au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, sur ces différents paiements pour services environnementaux, il y a une loi qui est en train d'être discutée entre les parties prenantes pour définir les clauses de répartition sur ces différents paiements.
En dehors de la déforestation, il y a aussi une autre thématique qui a été abordée, laquelle?
Il y a aussi l'inclusion du genre, c'est-à-dire le genre et le changement climatique, parce que on se dit souvent que la question de résilience est seulement pour les hommes, mais les femmes sont beaucoup impactées avec les effets du changement climatique. Donc ce thème-là était d'une importance capitale, qui a été abordé par des experts, qui nous ont partagé un peu le vécu des femmes et aussi l'impact que le changement climatique pourrait avoir sur les femmes et les jeunes.
Comment est-ce que cela se traduit concrètement dans le quotidien de ces femmes?
Oui, du coup, une femme qui, en son temps, parcourait peut-être 1 kilomètre pour avoir ne serait-ce que du moins mort de chauffe, pour faire la cuisine et autres, est obligé de parcourir plus de distance puisque les ressources se faisant rares. Mais aussi, les questions de sécheresse font que les marigots ou les zones d'approvisionnement en eau tarissent et qui nécessitent également un effort supplémentaire pour les femmes pour l'approvisionnement en eau potable. Donc du coup, ces impacts-là ne sont pas peut-être visibles comme on le pense, mais contribuent réellement à pouvoir appauvrir ou faire régresser les efforts des femmes au milieu rural. Donc il est très important de prendre en compte avec les politiques publiques et le développement d'initiatives, de prendre en compte la dimension genre pour que déjà les points spécifiques, des défis, des challenges qui sont importants dans les communautés puissent être pris en compte dans la mise en œuvre des projets.
Le dernier aspect de cette série d'activités, ce sont les visites terrain.
Avant de parler déjà de la visite de terrain, l'une des thématiques qui était aussi importante pour cette activité, c'est le panel 1 qui parlait de l'érosion côtière et la résilience des communautés locales. Pour nous, aborder ou proposer cette thématique-là et inviter des experts à en parler, vraiment, a permis quand même de mesurer l'impact sur la biodiversité et les habitudes communautaires. Avec toute cette montée des eaux, les populations sont conscientes que les changements climatiques, même si elles n'ont pas le nom exact, elles savent déjà les changements environnementaux qu'il y a au niveau de leur communauté, qui influent sur leurs habitudes, que ce soit culturelles et alimentaires. Donc, pour nous, il était aussi important d'inviter les médias à être confrontés à la réalité, voir les différents aspects qui ont été abordés lors de ce panel-là, pour déjà discuter, les mettre en relation avec les populations qui vivent au quotidien et qui sont impactées quotidiennement par cette érosion côtière. Pour les sessions de visite, c'était vraiment de répondre à une approche de théorie à la pratique. Donc, ça permet quand même de mobiliser des acteurs sur le terrain qui sont experts en la matière, qui sont des acteurs locaux qui ont des initiatives. Donc, permettre de mettre les médias en contact avec ces personnes-là ou ces entités va renforcer non seulement les actions de ces organisations ou de ces acteurs-là, mais également renforcer la crédibilité de ces actions auprès de potentiels bailleurs qui pourront déjà comprendre qu'il y a des actions qui sont faites sur le terrain et qui pourraient supporter ces organisations-là ou ces entités-là qui font des efforts quand même pour conserver la biodiversité, apporter leur contribution pour l'amélioration des conditions de vie des communautés, mais également apporter une partie de leur savoir-faire pour l'adaptation ou la résilience face aux effets du changement climatique.
La première visite a eu lieu à Grand Laou. Que s'est-il passé, notamment à Laou Panda?
Oui, la première visite a été une visite de courtoisie, d'abord au niveau de la chefferie, mais également a permis quand même de rencontrer toutes les couches sociales, entre la femme, puisqu'il y a une dimension de genre qui a été abordée lors des panels, et également aussi les autorités coutumières du village. Donc, on a été reçus, on a discuté, ils nous ont partagé le problème. La mer avançant, il y a eu beaucoup de dégâts qui ont été enregistrés, de 70 à 75, où la Laou 2 a été mis en place et où également les communautés ont vu la disparition de leurs tombes qui ont été englouties par les eaux, la montée des eaux, mais également aussi la disparition des premiers vestiges coloniaux qui constituaient réellement une richesse pour cette ville d'antan.
À Laou, l'équipe de visite s'est rendue aussi à l'embouchure.
Oui, déjà c'était pour visiter le phénomène de l'ensablement. Même si on n'a pas pu avoir des dispositions techniques pour voir vérifier réellement comment le débit se passe, mais quand même l'observation du terrain a permis quand même de voir exactement l'ensablement de l'embouchure. Donc le projet qui pourra supporter tous ces différents engagements ou tous ces différentes initiatives pour remettre les choses sur les rails, on espère bien que le projet Waka dans son ensemble pourra permettre quand même de répondre à cette problématique pour redonner vie à ces populations, pour redonner une lueur d'espoir à ces acteurs-là qui crient au secours.
Après Grand Laou, le cap a été mis sur Grand Bérébi. Et à Grand Bérébi, qu'est-ce qui a été découvert?
Oui, Grand Bérébi, on a visité les sites de conservation puisque nous nous trouvons dans l'aire marine protégée qui a été créée avec la contribution de tous les acteurs, y compris des acteurs locaux, et pour lesquels l'ONG SEM, AGETOU et tous les autres qu'on ne peut pas citer ici, qui ont contribué à leur manière à pouvoir apporter leur contribution jusqu'à l'érection de ce site-là en aire marine protégée. Bien que les décrets d'application ne sont pas encore pris, mais déjà, dans la conscience collective, tout le monde sait que cette zone a été déclarée protégée et que tous doivent contribuer à la protéger et à donner de leur temps, de leur énergie à pouvoir suivre toutes les initiatives, à faire la surveillance et toujours sensibiliser les acteurs pour changement de comportement et changer des pratiques.
Quelle est la superficie? Comment est-ce qu'on détermine la superficie de l'aire marine protégée dont vous parliez tantôt?
Cette aire marine protégée part de Ménolé jusqu'à Tablaké et qui couvre une superficie de 2600 km².
2600 km² d'air protégé. Dans cette étendue d'océan, qu'est-ce qui s'y passe exactement et quelles sont les mesures qui ont été prises pour la protéger véritablement? Cette aire protégée.
La pêche est interdite, donc peut être passible de poursuites en justice, condamnation, parce que l'érection, la création de cet espace-là découle de la loi numéro 2017-378 du 2 juillet 2017 portant aménagement, protection et gestion intégrée du littoral. Donc avec cette loi et la création de cette aire marine protégée, déjà, les acteurs sont conscients qu'ils doivent s'engager pour la conservation de ces espaces et permettre quand même de préserver la biodiversité marine qui existe sur cette couverture qui a été délimitée.
Après la visite de l'aire marine protégée, il y a eu celle aussi d'un entrepôt où sont conservés les poissons.
Oui, il s'agit d'un projet pour encourager ou améliorer les conditions de vie des marieuses et du secteur de la pêche au niveau de Bérébi. Donc, il y a un financement du gouvernement basque au travers de l'ONG SEM et AAD qui ont contribué à mettre en place un site de conservation de poissons qui est quasiment autonome, fonctionnant à l'énergie solaire et qui permet quand même de répondre aux besoins des communautés qui jusque-là étaient livrées à elles-mêmes pour la conservation de leurs poissons. Du coup, avant, lorsque les femmes recevaient le poisson et qu'elles vendaient, s'il arrivait que le poisson ne finissait pas, elles étaient obligées d'agresser la biodiversité marine à travers l'utilisation des palétuviers pour faire fumer le poisson et en se conserver. Donc le fumage du poisson qui va avec les maladies qui peuvent survenir en termes de maladies pulmonaires et aussi potentiellement du cancer qui peut se développer. Donc déjà, ayant cette alternative, elles ont maintenant la possibilité de ne plus avoir une pression sur la nature, mais également avoir un espace pour conserver, pour l'écouler sur de long.
Avant la visite de l'aire marine protégée, il y a une escale au niveau de la police maritime de Grand Bérébi.
Oui, il était question de faire un peu le bilan de l'évaluation du projet initial afin de pouvoir donner les résultats et déjà leur communiquer la suite des initiatives qui pourront être menées dans le cadre de l'amélioration de la protection des ressources naturelles et plus précisément de la biodiversité marine. Et c'était aussi bon de les rencontrer pour avoir leur ressentiment, leur avis sur leur contribution dans ce projet, mais également aussi dans les marines protégées. Ce qu'on pourrait dire, c'est que il y a beaucoup à faire et tous les acteurs à leur niveau font leur part. Mais il y a certains acteurs quand même qui veulent faire aussi, mais qui n'ont pas suffisamment d'informations. Donc pour nous, il était important de créer ce pont-là, ce cadre de collaboration, cette mise en relation pour permettre aux médias d'avoir accès aux décideurs, d'avoir accès aux communautés et aussi aux organisations locales qui, elles, sont là depuis longtemps et qui contribuent au fur et à mesure à améliorer les conditions de vie des communautés et aussi à contribuer fortement à la conservation des écosystèmes marins. Donc pour nous, il était important d'organiser cet atelier, mais également aussi cette visite de terrain pour des mises en relation et pourquoi pas pour développer d'autres projets pour que la voix de ceux qui sont sur le terrain puisse porter au travers des écrits, des productions qui seront faites pour que s'il y a des initiatives à faire, ceux qui sont prêts à soutenir puissent venir soutenir les actions déjà sur le terrain.
Marc Antelme Kouadio, je vous remercie.
Merci.
Je recevais à l'instant Marc Antelme Kouadio, consultant en biodiversité et environnement pour faire le bilan de l'atelier débat suivi d'échanges et de la visite terrain avec des médias dont Radio de la Paix, bénéficiaire du projet Terra Africa. À la technique, il y avait Antoine Kouassi, Marthe Kakou à ce micro. Merci de votre attention et à bientôt.
Cette entrevue vous a été proposée avec la participation de CFI, Agence française de développement des médias, dans le cadre du projet Terra Africa.